Et c'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, une révolution à venir pour les étudiants en médecine. Le gouvernement s'apprêterait à annoncer la fin du couperet de la première année, la fin du numerus clausus tel qu'il existe depuis 45 ans. Explication dans un instant. La fin du suspense fiscal de la semaine. Nos salaires et nos pensions seront bien directement amputés de l'impôt sur le revenu dès janvier, avec une nouveauté pour ceux qui ont des crédits d'impôt, annonce d'Edouard Philippe hier soir, et précision à suivre. Qui pour remplacer François de Rugy au perchoir de l'Assemblée? Richard Ferrand tient la corde, malgré l'enquête sur les mutuelles de Bretagne. Et c'est François de Rugy qui sera votre invité tout à l'heure.
Il prend la difficile succession de Nicolas Hulot. Quels seront ses moyens? Que lui a promis le président de la République? Le nouveau ministre de la Transition écologique, donc au micro d'Inter dans 20 minutes, 01 45 24 7000 pour dialoguer avec lui.
Dans ce journal également, le SMS de Laurent Wauquiez à tous les lycéens de sa région. La CNIL demande des explications. La trop lente reconstruction à Saint-Martin après le passage d'Irma. Les nouvelles menaces des États-Unis contre Bachar el-Assad. Et du cinéma brut, frais et marseillais chez Razad. C'est le film de la semaine, nous dira Eva Bétan. Inter. Des heures et des heures à bachoter sans voir le jour, avec l'infime espoir de passer la première année. Le calvaire des étudiants en médecine est peut-être bientôt terminé. Bonjour Solène Lehen.
Bonjour.
C'est vous qui nous le révélez ce matin. Le gouvernement veut en finir avec le numerus clausus dans sa forme actuelle. Il devrait l'annoncer d'ici une quinzaine de jours.
Le souhait du gouvernement, c'est d'en finir avec ce concours de fin de première année d'études de santé. Un concours qui fait la part belle au bachotage et à la restitution du par cœur et qui sélectionne seulement un candidats sur 7, souvent des redoublants. Un effroyable gâchis, selon le Premier ministre. Un système injuste et inefficace, selon Emmanuel Macron. Le gouvernement entend donc supprimer ce concours et par conséquent le numerus clausus actuel. Il sera remplacé dans chaque université par des partiels très classiques qui permettront aux étudiants de passer en deuxième année. Ensuite, il y a deux options. La question n'est pas encore tranchée. Soit le gouvernement ouvre complètement les vannes, libre à chaque université de former autant de médecins qu'elle le souhaite, à condition évidemment d'avoir les locaux et suffisamment de places en stage, rien n'est moins sûr. Soit deuxième option, on garde une forme de sélection, de régulation, mais alors à l'issue de la licence, en fin de troisième année, avec un concours peut-être. Selon une source proche du dossier, les recalés n'auraient pas perdu leur temps car ils bénéficieraient de passerelles, les débouchés étant nombreux dans les métiers de la santé.
Solène, est-ce que c'est aussi une façon d'en finir avec la pénurie de médecins en France?
Ce n'est pas le but premier, pas la philosophie. D'abord parce que pour cela, le numerus clausus a déjà été relevé récemment, il y a 2 ans. Et les effets se verront à long terme, le temps de finir de former les médecins, donc au bout de 10 ans seulement. On sait en plus aujourd'hui que le problème, c'est pas tellement le nombre de médecins, mais plutôt leur inégale répartition sur le territoire. Non, l'idée ici, c'est vraiment de réformer les études de santé, les rendre, je cite, plus modernes, plus humaines. Des études qui ont déjà fait l'objet d'aménagements avant l'été, avec la suppression des examens classants en fin de 6e année.
Solène Lehen, merci.
Il est 8h03, Florence. La fin d'une curieuse séquence de doutes au grand jour. Maintenant.
Doute alimenté par Emmanuel Macron et levé par Edouard Philippe hier soir. L'impôt sur le revenu sera bien prélevé sur les salaires et les pensions à partir de janvier. Nous avons la garantie que la réforme s'appliquera dans de bonnes conditions, assure le Premier ministre, qui annonce un ajustement de dernière minute, Delphine Simon, pour les contribuables qui ont des crédits d'impôt.
Il s'agit de limiter l'impact de la réforme sur la trésorerie des ménages. Bercy a dû adapter le prélèvement à la source pour y intégrer ces crédits d'impôt qui ne peuvent être pris en compte dans votre taux d'imposition. Pour ceux qui emploient du personnel à domicile, pour les frais de garde d'enfants et les personnes hébergées en EHPAD, un acompte de 30% sur le montant de votre crédit d'impôt devait être versé dès le 15 janvier. À la demande de l'Élysée, cet acompte sera porté à 60%. Et la mesure sera étendue à d'autres crédits d'impôt, l'investissement locatif, les celliers, les Pinel, mais aussi les dons aux œuvres caritatives. Pour les 8 millions de foyers concernés, cet acompte est nettement plus avantageux que le dispositif imaginé jusqu'ici. Une avance de plus de 5 milliards d'euros dont l'objectif, selon Bercy, est d'apaiser les craintes autour du pouvoir d'achat à un moment où la consommation des ménages faiblit. Un ajustement de dernière minute que les agents de Bercy ont désormais 4 mois pour mettre en œuvre avant le Big Bang fiscal.
Là, le doute n'est pas levé. François de Rugy redonnera-t-il l'espoir à ceux qui attendent un changement de cap sur l'écologie ? Nommé pour remplacer Nicolas Hulot hier, le président de l'Assemblée, ancien d'Europe Écologie Les Verts, ne fait pas l'unanimité. Ses anciens camarades sont sceptiques. L'opposition de droite et de gauche pointe son opportunisme. Il siégera ce matin à la gauche d'Emmanuel Macron, en Conseil des ministres. Et la question suivante maintenant, c'est qui pour le remplacer au perchoir de l'Assemblée ? 3 candidatures pour l'instant dans la majorité, mais un seul favori, Maxence Lambrecq, c'est Richard Ferrand.
Quand les micros sont ouverts, salle des quatre colonnes, les marcheurs ne parlent que de lui.
Richard Ferrand est le meilleur d'entre nous. Il est là depuis le début de l'aventure avec Emmanuel Macron.
Pour ma part, je soutiens complètement la candidature de Richard Ferrand, qui me paraît le candidat le plus naturel et légitime et expérimenté pour ce poste.
Coralie Dubost en oublie l'affaire des mutuelles de Bretagne.
C'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement. Je crois surtout que pour l'instant, toutes les affaires qui ont été portées ont surtout été classées.
Classées sans suite à Brest, mais rouvertes depuis à Lille. Cette enquête pour prise illégale d'intérêt se poursuit. En face de lui, Richard Ferrand a pour l'instant deux adversaires, deux femmes, Sandra Motin, discrète députée de l'Isère, et Yaël Braun-Pivet, qui fut la présidente de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, jugée alors beaucoup trop rigide, trop clivante, selon l'insoumis Éric Coquerel.
Je trouve que Madame Braun-Pivet a été une très très mauvaise présidente de la commission d'enquête, voilà, qui l'a étouffée, et que je vois mal comment elle pourrait prétendre être la présidente de l'Assemblée après ce mauvais numéro.
Richard Ferrand, patron de l'Assemblée, mercredi prochain. Cela ouvrirait une nouvelle bataille pour la présidence du groupe LREM. Bataille politique incertaine et très sensible.
Et l'autre nouvelle au gouvernement, c'est Roxana Maracineanu. La championne du monde de natation remplace donc Laura Flessel au sport. Partie pour des raisons personnelles. Façon pudique de ne pas évoquer ses ennuis avec le fisc, Charlotte Piret.
C'est précisément la société de droit à l'image Flessel & Co qui est dans le viseur de la commission des infractions fiscales, cette autorité indépendante chargée d'examiner les dossiers litigieux en vue ensuite d'une éventuelle plainte au pénal. Laura Flessel n'en est pas encore là, aucune plainte de Bercy n'ayant été enregistrée à ce stade, mais elle n'en est peut-être pas si loin car ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros qui auraient été dissimulés au fisc par l'entreprise familiale, une société détenue à plus de 87% par la désormais ancienne ministre, le reste des parts revenait à son mari, également gérant de cette société, en cours de dissolution depuis le 30 septembre 2017. Ces manquements dans les déclarations fiscales ont été découverts dans le cadre des vérifications automatiques de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui examine déclarations du patrimoine, des revenus d'activité et éventuels conflits d'intérêts de chaque ministre au moment de sa nomination. Si les éléments recueillis en mai 2017 sur Laura Flessel n'étaient sans doute pas suffisants pour empêcher son entrée au gouvernement à l'époque, la situation est désormais différente.
Et dans son fauteuil, la nouvelle ministre Roxana Maracineanu aura fort à faire pour rassurer le monde du sport avec des crédits en baisse de 5% au ministère. Le portable qui sonne, tiens, c'est un message de Laurent Wauquiez, message envoyé aux 190 000 lycéens de sa région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée et que cette année vous réserve à tous de belles réussites. Message sympathique. Mais comment a-t-il eu tous ces numéros de téléphone ? La CNIL, la Commission Informatique et Liberté va lui poser la question. Que s'oppose également Jean-François Debat, conseiller régional d'opposition, président du groupe socialiste et démocrate à la région.
Je voudrais savoir comment Laurent Wauquiez a eu le 06 de ma fille et de 190 000 lycéens. Plus sérieusement, ce qui me choque, c'est que pour la communication politique personnelle de Laurent Wauquiez, eh bien, on a utilisé un fichier constitué par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une institution. Il y a là un mélange des genres. C'est un abus d'utilisation de ce fichier. Ce fichier a été constitué pour pouvoir envoyer des informations institutionnelles, des informations utiles, mais certainement pas pour leur envoyer des messages, même gentils, de leur envoyer comme président de la région. Quand on s'adresse à presque 200 000 lycéens qui voteront tous en 2021, il y a forcément une trace. Alors, je ne dis pas que tous vont être dupes, je dis simplement que ça rentre dans la communication politique et ce fichier qui a été constitué légalement par la région pour des fins institutionnelles, ne peut pas être utilisé pour une communication politique personnelle.
Voilà. La région explique qu'il s'agit d'un message automatique de bienvenue envoyé au moment de l'activation de la carte passe région par les lycéens.
Il est 8h09, Florence. Lui a pris la tangente le 1er juillet dernier en s'évadant de la prison de Réau.
Redouane Faïd, depuis, est introuvable. La police mettra-t-elle la main sur des indices ce matin dans l'Oise ? Plusieurs opérations ont lieu depuis 6h, notamment à Creil, où vous vous trouvez, Farida Noir, devant l'un des pavillon perquisitionné.
Oui, c'est un pavillon au toit en briques et camouflé derrière d'épais feuillages investis par la police depuis 6 heures ce matin, l'heure à laquelle 7 voitures banalisées sont arrivées en file indienne pour procéder à la perquisition de ce domicile où habitent des membres de la famille de Redouane Faïd. Mais le dispositif est plutôt discret, la rue est calme, aucun périmètre de sécurité n'est mis en place. Mais les policiers sont quand même équipés de gilets pare-balles, certains cagoulés, pas d'autres tenues de protection. L'opération est donc toujours en cours dans ce pavillon qui se trouve à 1 km de la cité où le braqueur récidiviste a grandi. Une partie de sa famille vit d'ailleurs toujours à Creil. Des perquisitions sont en cours au domicile de certains d'entre eux. Deux autres adresses, deux immeubles où nous avons pu constater une présence policière ce matin. Plus d'une cinquantaine de policiers participent à cette opération d'envergure qui, selon nos informations, ne vise pas directement à interpeller le fugitif. Toujours activement recherché, la traque de Redouane Faïd et de ses complices continue donc.
Farida Noir en direct de Creil avec Hélène Langlois.
C'était il y a un an, là aussi, dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017. L'ouragan Irma frappait les Antilles, ravageait Saint-Martin.
Une catastrophe naturelle inédite dans cette île franco-néerlandaise. 11 morts, 95% des bâtiments détruits. Un an plus tard, Saint-Martin reste un grand chantier, confronté notamment au retard des assurances et au manque de main-d'œuvre. Reportage sur place de notre envoyé spécial Mathieu Mondoloni.
Saint-Martin, c'est un grand chantier à ciel ouvert. Un an après le passage d'Irma, on voit toujours des maisons sans toit, des murs sans fenêtres, comme chez Estelle qui vient seulement de recevoir une première indemnisation de son assurance.
Le problème a été le traitement des dossiers par les assurances. Ça a mis des semaines, voire des mois. Il y a eu également le problème de trouver des entreprises pour effectuer les travaux. Donc c'est que maintenant que je peux commencer à commander. Et donc j'aurai mes fenêtres et mes volets roulants d'ici 3 mois.
Sur la trentaine d'appartements de sa résidence, seuls 7 ont été entièrement reconstruits. Alors lassés d'attendre, certains habitants ont décidé de se débrouiller seuls, comme Louis qui habite le quartier populaire de Sandy Ground.
Avec ma famille, on a refait la toiture, on a refait les fenêtres, les portails. Là, on est en train de faire l'encadrement du terrain. J'ai refait tout moi-même. On va y arriver.
Louis n'était pas assuré, alors il comptait surtout sur les aides pour les plus défavorisés, des aides qu'il dit toujours attendre.
L'État, le gouvernement, local, tout le monde parle, il n'y a pas d'action. Il y a des écoles qui n'ont toujours pas refait, c'est dégueulasse.
Juste à côté de chez lui, Louis montre une montagne de gravats, un stigmate qui témoigne un an après de la violence du cyclone. C'était la maison de sa cousine, l'une des 11 victimes d'Irma. À Saint-Martin, Mathieu Mondoloni, France Inter.
Un livre comme un scud contre Donald Trump aux États-Unis, un portrait accablant signé Bob Woodward, l'un des journalistes qui a révélé l'affaire du Watergate. Il y décrit la Maison Blanche comme une maison de fous, un président inculte, colérique, paranoïaque. Autre révélation, cette demande de Donald Trump l'an passé de faire assassiner Bachar el-Assad, ordre ignoré par son ministre de la Défense. Alors que les menaces resurgissent aujourd'hui à l'aube d'une offensive du régime et des Russes contre Idlib, les États-Unis réagiront en cas de nouvelle attaque chimique, répète Nikki Haley, l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies.
La situation à Idlib est sérieuse. Oui, la Russie pointe du doigt l'opposition, les casques blancs et d'autres. Bachar el-Assad fait pareil. Et ça, c'est exactement la stratégie qu'ils observent avant que le régime syrien n'ordonne une attaque chimique contre son propre peuple. Les Syriens ont vécu trop de drames, c'est une terrible situation. S'ils veulent tous continuer à renforcer leur emprise sur la Syrie, soit. Mais en aucun cas, ils ne peuvent le faire avec des armes chimiques. Ils ne peuvent pas s'en prendre aux civils et on ne va pas rester les bras croisés devant une telle situation. Si des armes chimiques sont utilisées, nous savons déjà qui en sera responsable. Je pense que vous avez lu les déclarations du président Trump mardi. Ne nous obligez pas à répondre. Il a été clair, si des armes chimiques sont utilisées, les États-Unis répondront.
Les États-Unis qui ont convoqué une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi. Et on reste à New York, à l'US Open, où Rafael Nadal vient d'achever un match totalement éprouvant pour lui. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Rafael Nadal qui vient de s'imposer face à Dominic Thiem en 5-7 avec un tie-break.
Un tie-break en effet dans le cinquième et dernier set à l'issue d'un match de 4h54. Rafael Nadal donc qualifié face à Dominic Thiem. C'était la revanche de la finale de Roland-Garros. Dominic Thiem souhaitait la prendre, cette revanche. Eh bien, il ne l'a pas obtenue, mais croyez-moi, il a frôlé l'exploit. Nadal est passé tout près de l'élimination.
Voilà, et c'est suffisamment rare pour qu'on en parle ce matin. Nadal qui se retrouva face à Juan Martine Del Potro en demi-finale. Serena Williams, elle n'est plus qu'à deux matchs du titre. On termine avec du cinéma et ce film qui vient de recevoir 3 prix au festival d'Angoulême, dont celui de meilleur film. C'est le coup de cœur des critiques et le coup de cœur d'Eva Bétan cette semaine chez Erazade. Une histoire de cœur, une sorte de Roméo et Juliette à la sauce marseillaise. C'est extrêmement réussi, dit Eva Bétan.
Une grande histoire d'amour dans les quartiers pauvres de Marseille. Fiction et réalité se mêlent. Elle, chez Erazade, tapine. Lui, sort de prison pour mineurs, comme Dylan Robert qui joue le rôle.
J'étais en train de préparer mon projet de sortie. Une éducatrice, elle m'a proposé de faire un casting quand je sors. Que ça renforce mon projet et tout ça. Ben moi j'ai dit, ouais vas-y, si vraiment j'ai une chance, je la prends de voler.
Dans l'ancrage documentaire, il y a Marseille, l'électricité de Marseille, les tentations de Marseille aussi.
Vous voyez, Paris c'est discret, Paris c'est sombre. À Marseille c'est ouvert, en plein figure. Tous les gens ils sont effrontés à Marseille. À Marseille c'est soit tu te prends quelques murs, tu comprends, ça et t'as le sens de la maturité, ou soit tu le comprends pas, tu vois. C'est comme quand devant toi on te met un pot de Nutella mais on te dit le touche pas. C'est pareil, à Marseille, les jeunes y sont tentés.
À ces jeunes, le cinéma fait le plus beau des cadeaux, le romanesque. Il les sort de la rubrique des faits divers, de la case problème. Il nous demande de vibrer avec eux, de vibrer pour eux, et on dit banco. C'est un film emballant, un film qui fait confiance à la jeunesse.
Banco, Eva Bétan, et spéciale dédicace aux Marseillais effrontés ce matin.
Merci Florence Paracuelos.